Alors, combien de vous, vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Hein? On a 50% des gens ici qui sont prêts à recevoir la parole. Combien de vous, vous êtes prêts à recevoir la parole? Bon, ça c'est mieux. Et vous savez ce que nous allons faire pour commencer? Nous allons faire notre déclaration parce que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. Nous croyons que tout ce que Dieu a révélé dans sa parole est utile pour nous enseigner, pour nous instruire. Et on veut recevoir la parole de Dieu sachant qu'elle va nous changer. Donc, tout le monde, si vous avez une Bible avec vous, on va prendre nos Bibles. Si vous n'avez pas une Bible, vous allez trouver à l'intérieur de votre bulletin une feuille avec presque tous les versets. Je vous encourage à amener une Bible le dimanche. C'est vraiment pratique. On a des Bibles dans la librairie si vous n'en avez pas une. Mais on va faire cette déclaration ce matin. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, ce matin, j'ai vraiment hâte de partager le message que j'ai sur mon cœur. Nous allons continuer notre série sur la force de l'unité. Et moi, j'ai eu vraiment un bon temps en partageant ces messages. C'est important. C'est exactement ce dont nous avons besoin, mais c'est ce dont l'Église entière a besoin dans le monde entier. Et donc, on a vu dans les dernières quelques semaines l'importance d'être unis. On a donné l'exemple du bulletin téléphonique qui est fait en papier. On prend une feuille de papier et c'est facile à déchirer. Mais si on met des centaines de papiers ensemble et ils sont collés et reliés ensemble, ils deviennent une force vraiment redoutable et c'est presque impossible de déchirer. Et on a vu que plus on est unis dans l'esprit, plus on est protégé, plus on va marcher dans la bénédiction du Seigneur. On a vu la semaine passée plusieurs conseils pratiques pour marcher dans l'unité. Mais ce matin, nous allons adresser un sujet extrêmement important. Nous allons parler de comment vaincre les offenses. Combien de vous, vous avez eu l'occasion d'être offensé au moins une fois dans votre vie? Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais, jamais, jamais eu l'occasion d'être offensé? Jamais, jamais. Tu n'as jamais été offensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un levé la main? Si oui, je vais vous inviter à venir nous parler. Mais vous voyez, les offenses, en fait, Jésus a dit que les offenses, les scandales vont venir. C'est impossible que les occasions de chute et les occasions d'être offensés ne viennent pas parce que nous vivons dans un monde infecté par le péché. Les scandales, les offenses vont venir. Mais c'est ce que nous faisons avec ces occasions de chute qui compte. Si on répond bien, on va vaincre. Mais si on répond mal, on va perdre. On va lire juste quelques versets de la parole en commençant. Colossiens chapitre 3. Versets 13 et 14, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre. » Vous savez, des fois, on a une raison. On a souvent des raisons de se plaindre. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des choses qui se passent. Mais remarquez bien, la Bible ne dit pas que nous avons une excuse pour se plaindre. Il dit une raison. On a souvent des raisons pour lesquelles on fait les choses, mais on n'a jamais des excuses quand nous appliquons la parole de Dieu. Amen? Et c'est comme quand on est en retard, des fois, il y a telle et telle raison qu'on est en retard, mais ce n'est souvent pas des excuses. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est la même chose avec les offenses. On a souvent les occasions ou les raisons d'être offensé. Ça arrive dans la vie chrétienne. Ça arrive dans les vies de couple. Ça arrive dans les églises, ça arrive dans toutes les relations ici sur la terre. On a des raisons d'être offensés, mais on n'a pas des excuses. Mais si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Pardonnez-vous réciproquement, tout comme Jésus vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Donc, vous voyez, la volonté de Dieu pour vous et pour moi, et on vient de faire une déclaration, Je peux faire tout ce que la Bible dit que je peux faire. La Bible dit que si j'ai une raison d'être offensé ou de me plaindre, que je suis appelé et commandé de pardonner celui qui m'a offensé. C'est un commandement, c'est pas une suggestion. Dieu a dit que si quelqu'un a raison de se plaindre, si quelqu'un a une raison d'être offensé, que la Bible dit sa volonté, la volonté du Père, c'est de prendre une décision de pardonner comme Christ nous a pardonné. Vous dites, mais je peux pas. Oui, vous pouvez, parce que vous venez de déclarer, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et si la Bible dit que vous pouvez pardonner, laissez-moi vous dire, vous pouvez pardonner. Amen. C'est comme, il y a un général d'une armée qui, une fois, est allé voir John Wesley, qui était un grand prédicateur en Angleterre, celui qui a fondé l'église méthodiste même. Et ce monsieur a dit à John Wesley, « Moi, je ne pardonne jamais et je n'oublie jamais. » Vous savez qu'est-ce que John Wesley a répondu? « Mais j'espère bien que vous ne péchez jamais aussi. » Hein? Parce que combien de vous, vous êtes contents du fait que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Et si Dieu m'a pardonné, j'ai vraiment une dette à payer envers les autres, et je leur dois le pardon. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Matthieu chapitre 6? Il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est assez direct, n'est-ce pas? C'est un peu silencieux ce matin. C'est parce qu'on est en train de réfléchir. Encore, ce n'est pas le pasteur qui a inventé ce message. Je vous lis la Bible ce matin. C'est Jésus qui a dit, « Si vous pardonnez les autres, votre Père va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Wow, ça, c'est pas mal fort, n'est-ce pas? On a les occasions d'être offensés, mais Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre les offenses. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans l'amertume. Nous ne sommes pas obligés de vivre avec la rancune ou le non-pardon dans notre cœur. On peut librement pardonner les autres et on peut librement recevoir le pardon pour nous-mêmes. N'est-ce pas merveilleux? Donc, j'ai juste plusieurs choses dans vos notes que je voulais souligner. Une personne qui a été offensée va se sentir, et voici moi, je pense trois choses qu'une personne qui est vraiment offensée, voulez-vous savoir si vous avez été offensé dans le passé? Regardez cette liste, trois choses qui se passent dans le cœur d'une personne qui est offensée. Il va se sentir souvent blessé. Ça, c'est la première chose. Hein? Une personne dit une parole dure et on se sent blessé. Ça fait mal. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Hein? Et donc, ça, c'est la première chose qu'une personne peut ressentir. Il va se sentir blessé. Des fois, il va se sentir attaqué. Ou des fois, il va se sentir insulté ou diminué. Est-ce que vous comprenez? Et je pense que tout le monde peut comprendre ce message ce matin, n'est-ce pas? On a tous eu l'occasion de se sentir blessé, attaqué, diminué, mal compris. Est-ce que j'ai raison? C'est les offenses qui provoquent ces émotions dans notre cœur. Mais la réponse naturelle aux offenses, qu'est-ce qu'on fait naturellement? Un homme, un être humain naturel qui n'a pas encore appris comment saisir les principes de la parole, une personne qui n'a pas compris comment pardonner, comment vaincre les offenses avec la parole de Dieu, voici qu'est-ce que la personne va faire. Voici la réponse naturelle aux offenses. Il va se fâcher. N'est-ce pas vrai? Souvent, une personne va se fâcher. Combien de vous? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais été fâchées dans leur vie? Moi, j'ai été fâché plusieurs fois. Et vous aussi, je suis sûr que vous avez été fâché. C'est peut-être même avec moi que vous étiez fâché. Je ne sais pas. Ça arrive. Peut-être c'était avec votre épouse ou votre mari ou avec quelqu'un au travail ou avec quelqu'un que vous ne connaissiez même pas. Hein, vous savez, des fois, on voit quelqu'un de loin et on est offensé par la façon qu'ils sont habillés. On est offensé par les personnes qui disent les choses à la télévision. Oh, ça m'enrage. Et on se fâche. Deuxième réponse, c'est, bon, je suis fâché, donc je vais me venger. Il m'a fait tort, alors il va apprendre une chose. Hein? Que, il peut peut-être faire tort aux autres et le faire encore et encore et encore plusieurs fois, mais il ne va jamais me faire tort une deuxième fois parce qu'il aura trop peur de moi. Hey, est-ce que j'ai raison? Hey, je vais lui enseigner un bon leçon. Il m'a offensé, je suis fâché, maintenant je vais me venger. Et des fois, il y a des différentes personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment violentes. Physiquement, ils vont aller vous donner un bon coup, hein, un coup de pied. Il y a des gens comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. La plupart des personnes vont se venger subtilement. N'est-ce pas vrai? Je suis offensé, donc hein, je vais parler dans le dos de cette personne. Et à chaque occasion que j'ai, je vais dire à tout le monde qu'est-ce que la personne m'a fait. Je vais raconter l'histoire à tous ceux qui sont prêts à m'écouter. Est-ce que vous savez de quoi je parle aujourd'hui? Il y a différentes façons. Ou des fois, dans un couple, hein, un mari est offensé par son épouse, alors donc, je vais lui enseigner une leçon. Bon, je vais être froide et je ne lui parlerai plus. Hein? « Oh, salut chérie, comment ça va ce matin? » Hein? Ou, il y a des fois, ça arrive, les mesdames qui vont être offensées par leur mari, et puis quand c'est l'heure de se coucher, et puis le monsieur se sent un peu amoureux, elle va se refroidir, et pas à peu près. Ceux qui sont mariés, hein? Vous avez sûrement entendu parler de ça chez les autres couples, hein? Jamais chez vous, je sais. Mais je vous parle comme un vrai pasteur aujourd'hui, là où vous vivez. Les offenses vont venir, les occasions d'être offensés vont venir, mais c'est notre façon, notre réponse qui va déterminer la victoire ou la défaite dans notre vie. Amen? Donc, au lieu de se fâcher, au lieu de se venger, il y a une autre chose qu'ils vont faire des fois, ils vont se retirer et ils vont s'isoler. OK, bon, il m'a fait tort. Il m'a blessé, donc ça n'arriverait jamais encore. Mordu une fois, mais une deuxième fois, jamais. Donc, je m'éloigne de cette personne. Je garde une bonne distance. En fait, ils ne me verront jamais plus. C'est ça qui arrive hein, souvent, même dans des églises, des fois. Une personne est offensée, donc, OK, bon, ils ne verront jamais plus mon visage là. Et c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a un taux de divorce si élevé? C'est parce qu'un homme est offensé par sa femme. OK, bon, je m'éloigne, je pars. Mais ce n'est pas ça qu'est-ce qu'on est supposé de faire. Ce n'est pas la façon biblique de résoudre des conflits ou de vaincre les offenses. Si on va vaincre les offenses, ça prend les réponses surnaturelles. Amen? On ne peut pas, en étant enfant de Dieu, en étant les hommes et les femmes qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas se permettre de vivre comme le monde vit. Amen? C'est-à-dire que chez les chrétiens, on ne devrait jamais avoir ces genres de réponses. Les gens ne devraient pas se venger dans l'Église. Ce n'est pas biblique. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire ce que la Bible dit que vous pouvez faire. Amen. Alléluia. Juste pour vous rappeler. Alléluia. Il faut avoir une réponse surnaturelle afin de vaincre les offenses. Lisons Proverbes chapitre 19, verset 11. J'ai trouvé ce verset et c'est tellement puissant. Il dit que l'homme qui a de la sagesse, tout le monde dit la sagesse, il est lent à la colère. Quelqu'un qui a de la sagesse est lent à la colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il met sa gloire à oublier les offenses. Je vais le dire encore. Un homme qui a de la sagesse, il est lent à la colère et il met sa gloire à oublier, tout le monde dit oublier, oublier les offenses. Si tu es vraiment en train de marcher dans la sagesse de Dieu, tu ne vas pas te fâcher facilement et tu vas, à chaque fois que vous êtes offensé, tu vas te réjouir dans le fait que, écoute, je vais oublier cette offense. Je ne prends pas cette offense. Je n'accepte pas cette offense. Je vais répondre avec sagesse. Et cette sagesse, ce n'est pas une sagesse humaine. C'est une sagesse surnaturelle et une sagesse divine. Qu'est-ce que Jacques, chapitre 1, verset 5, dit? Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout homme, quelques versions disent, libéralement et sans reproche. Donc, laisse-moi vous dire une chose. Je ne dis pas que c'est facile pour la chair de vivre comme ça. La chair va vouloir se fâcher. La chair, vous aurez, laisse-moi vous promettre que si vous êtes vraiment en vie, même si vous êtes chrétien depuis 50 ans, si quelqu'un vous fait tort, votre chair va vouloir à l'occasion se venger. Est-ce que c'est vrai? Votre chair va se fâcher. Votre chair va vouloir s'isoler et se retirer. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre selon la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen? Ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend la sagesse qui vient d'en haut. Donc, vous pouvez demander, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse afin de ne pas me mettre en colère et afin d'oublier les offenses. Amen? Ça prend son aide. Je ne vous demande pas d'essayer cela dans votre propre force. Ça prend la force et l'aide surnaturelle de Dieu. Amen? Mais vous l'avez. Amen? Tu peux faire qu'est-ce que la Bible dit que tu peux faire, mais tu possèdes qu'est-ce qu'elle dit que tu possèdes. Et la Bible dit que si tu demandes la sagesse, tu vas l'avoir. Amen? Alléluia! Donc, remarquez bien, c'est important. Les offenses, les occasions d'être offensé vont venir. Mais à chaque fois qu'une occasion se présente devant nous pour être offensé, il faut que nous prenions une décision de qualité d'activer la puissance de Dieu, d'activer la sagesse de Dieu et de répondre surnaturellement, tout le monde dit surnaturellement, à chaque offense. Et on peut le faire. Amen? Et c'est ça qui va nous aider à garder et maintenir l'unité de l'esprit. Amen. Nous serons un comme il est un. Amen. Alléluia. Mais dans vos notes, j'ai marqué une chose bien importante, c'est que les offenses sont littéralement les pièges de l'ennemi. Les offenses sont littéralement les pièges de l'ennemi. Et le mot grec pour offense même, ou scandale, c'est littéralement le même mot qu'ils ont utilisé pour une partie d'une piège où ils mettaient l'appât. Pour attraper un animal. C'est vraiment ça. C'est littéralement une offense, c'est une piège. Bon, regarde quelqu'un à côté de toi et dis, une offense, c'est une piège. Amen. Combien de vous voulez être piégé par l'ennemi? Personne. Personne. C'est une piège. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que si une personne se laisse offenser, et si une personne refuse de pardonner, ce n'est pas l'offenseur qui souffre le plus. Savez-vous qu'est-ce que j'ai découvert? C'est la personne qui s'est laissée offenser qui souffre plus que n'importe qui. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré des personnes qui viennent me parler de qu'est-ce qu'une telle personne a fait à eux il y a 15 ans ou il y a 20 ans? Et ils gardent toujours l'amertume dans le cœur à cause de qu'est-ce que cette personne a fait il y a 15 ou 20 ans. Laisse-moi vous dire que 9 fois sur 10, l'offenseur a oublié 15 minutes après qu'il a fait l'erreur et qu'il a fait tort à la personne. Et lui, il est en train de vivre dans la joie et de s'occuper de ses affaires. Il est heureux, il est content. Mais la personne qui a laissé entrer l'offense dans son cœur, il souffre depuis 20 ans. C'est vrai, n'est-ce pas? Si tu ne le crois pas, lis Matthieu chapitre 18. Jésus parle du monsieur qui devait des millions de dollars au roi. Il n'était pas capable de payer sa dette. Mais et le roi a dit, « OK, bon, tu ne peux pas payer ta dette. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre ta femme. Je vais vendre tes enfants. Et avec l'argent que je fais de ta famille, je vais récupérer la dette. » Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il est tombé à genoux, il suppliait, il mendiait, « Ayez miséricorde, s'il te plaît, pardonne-moi. » Et le roi a eu miséricorde. Il a dit, « C'est correct, ta dette est cancellée. » Amen. Qu'est-ce qui arrive? Hein? Un peu plus tard, il se promène et il voit une personne qui lui doit. 10 $ à peu près, on dirait. 10 $, 20 $. Et il dit, OK, paye-moi maintenant. Hey, tu me dois 20 pièces, donne-moi mon argent. Et encore, il dit, oh, mais tu sais, je ne l'ai pas aujourd'hui. Peux-tu me donner un peu de temps? Peux-tu me permettre de te payer plus tard? Non, je le veux maintenant. Et il met le gars en prison parce qu'il n'était pas capable de payer 20 pièces. Mais vois-tu, cette personne qui avait cette amertume dans son cœur, qui a refusé de pardonner la dette de l'autre personne, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Tout le monde a vu cela et ils sont allés donner le message au roi et le roi était pas mal mécontent. Il a fait venir le monsieur. Il a dit, écoute, je t'ai pardonné une telle dette, mais toi, tu n'étais pas prêt à pardonner un autre. Donc maintenant, je vais te mettre en prison et toi, tu vas rester en prison jusqu'au moment que tu as payé la dette entière que tu me devais au début. Donc, c'est qui est arrivé aux prisons? C'est qui était lié? C'est la personne qui a refusé de pardonner. Amen? Le non-pardon nous amène aux prisons. Le non-pardon nous amène aux prisons. C'est une piège de l'ennemi. Mais si on est sage, on oublie les offenses. Amen? Et on évite les pièges. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est que, est-ce que vous êtes sage ou est-ce que vous êtes un singe? Est-ce que vous êtes sage ou est-ce que vous êtes un singe? Pourquoi est-ce que vous me posez cette question? Avez-vous entendu comment il y a dans certaines places, j'ai entendu qu'il y a une place particulière en Afrique où ils vont chasser les singes. Et la façon qu'ils vont attraper les singes, c'est qu'ils vont construire une cage et ils vont mettre en appât dans la cage quelque chose de bien attirant qui est attaché en genre de bâton. Okay? Mais il y a des barreaux dans la cage qui sont plus étroites, trop étroites pour faire passer le bâton, mais juste assez larges pour laisser passer la main d'un singe. Alors le singe arrive, il voit, il a assez de bon sens de savoir, je n'entre pas par la porte, mais il voit quelque chose à l'intérieur, il va mettre sa main à l'intérieur de la cage, il va prendre la pâte, le bâton, et il prend ça dans sa main, et il essaie de faire sortir le bâton, mais ça ne sort pas, il ne veut pas relâcher, il essaie de sortir ça, et il est persévérant, persistant, il ne veut pas lâcher prise, mais entre-temps, il y a des personnes qui sont cachées aux alentours du cage, ils sortent vite, vite, avec les bâtons dans la main, et ils commencent à battre jusqu'au point où le singe est mort, et ils ont eu le proie. Vois-tu? Et je me suis dit, ça c'est malheureusement l'image de beaucoup de chrétiens. Hein? Ils arrivent devant une piège de l'ennemi, une offense. Quelqu'un te dit quelque chose qui est blessant, ou qui est fâchant, et puis, au lieu d'avoir la sagesse de Dieu et de dire, j'oublie ça, je ne veux même pas entrer dans ce piège-là. Je sais qu'est-ce que c'est. Ça, c'est une piège de l'ennemi. Au lieu d'être sages, ils agissent comme les singes. Je dis, as-tu entendu qu'est-ce qu'il a dit? Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a fait? Et prends la part de l'ennemi. Et puis, ils sont poignés là, vraiment. Et entre-temps, Satan vient avec tous ses amis. Et il commence à battre et donner les coups et des coups de pied et de faire souffrir la personne. Mais il pourrait se sauver. Tout ce que ça prendrait, c'est une décision de lâcher prise du bâton et de se sauver. Oh! Ça va faire. Mais non. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Est-ce que tu sais comment ils ont fait? Et là, le diable est en train de donner des bons coups et des bleus et tout le kit. Et là, tu souffres, mais tu ne veux pas lâcher prise. Est-ce que vous êtes sage ou est-ce que vous êtes un singe? Un sage oublie les offenses. Un singe prend les offenses et ne lâche jamais prise. Amen? Bonne question, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas avoir une église pleine des singes. On va avoir une église pleine des sages. Amen. Votre foyer, vous ne voulez pas avoir un foyer plein de singes, mais plein de sages. Amen. Alléluia. Donc, on va vous donner trois choses aujourd'hui, trois choses vraiment pratiques pour comment vaincre les offenses, comment être sage et comment agir avec la sagesse de Dieu au lieu d'agir comme un singe. Première chose, reconnaissez les pièges ou on pourrait dire les ruses de votre ennemi. Reconnaissez. Il faut que vous vous habituiez à bien reconnaître les pièges de l'ennemi. OK? je penserais que on devrait avoir assez de sens, après avoir vécu avec le Seigneur un certain nombre d'années, qu'à chaque fois que quelqu'un nous fait tort, chaque fois que quelqu'un nous dit une parole blessante, chaque fois que quelqu'un nous offense, on devrait reconnaître tout de suite, « Wow, c'est mon ennemi qui a placé ce piège devant moi et je m'éloigne. Je vais prendre une autre route. » Amen. Reconnaissez, la meilleure chose à faire pour vaincre les offenses, c'est de reconnaître les offenses. Amen. Et de reconnaître c'est qui l'a mis là. Hein? Sachez, avec ce même point, sachez que la personne n'est pas votre problème. Combien de vous savez que c'est trop facile à être offensé, on est dans une situation, quelqu'un nous fait tort, et on pense tout de suite, « Ah, c'est lui mon problème. C'est ce monsieur, c'est cette madame, c'est lui qui est vraiment mon problème. Si je pourrais me débarrasser de cette personne, mes problèmes vont disparaître. » C'est pas ça. Laisse-moi vous dire, si tu ne deals pas avec le vrai ennemi, vous allez vous trouver devant une autre piège, et une autre piège, et une autre piège. Hein? Il y a des personnes, qu'est-ce que ça donne d'être fâché avec le piège? Oh, c'est pas la piège qui t'a offensé, c'est le chasseur qui a mis la piège. N'est-ce pas vrai? Donc, au lieu d'être fâché avec le cage, dire, je vais détruire cette cage. Non, va chercher celui qui a mis la cage dans votre route, sur votre chemin. Amen. Cherche-lui et tu peux lui faire payer. Amen. Parce qu'on sait c'est qui? C'est le diable. En fait, on voit en Éphésiens chapitre 6. Regardons. Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Laisse-moi vous dire encore, la personne n'est pas votre problème. C'est l'esprit qui est en arrière de cette personne qui est votre problème. Amen. La personne n'est pas votre ennemi. Et si vous êtes fâché avec cette personne, vous avez tort. Amen. Au lieu de se fâcher avec la personne, fâchez-vous avec celui qui l'a inspiré pour vous offenser. Regarde Matthieu 16, 23. Jésus a fait cela, mais Jésus, parce que vous voyez, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait être crucifié, mourir et tout le kit, mais ses disciples n'aimaient pas ça. Et Pierre l'a repris, il a dit non, 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 jamais, jamais. Et Jésus, se retournant, dit à Pierre, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan! Tu mets un scandale. Et ce mot scandale, c'est le même mot pour offense. Dans la Bible anglaise, même c'est marqué une offense. C'est, tu mets devant moi une offense. Il a dit, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vois-tu, Jésus a attaqué à la source. Il n'a pas attaqué à Pierre, il a attaqué à la source. Il est allé directement au chasseur. Il ne s'est pas fâché avec le piège, mais il s'est fâché avec celui qui a mis le piège. Amen. Et c'est ça que vous avez besoin de faire aussi, et c'est ça que moi j'ai besoin de faire dans ma vie personnelle. Je vais reconnaître à chaque fois quelque chose qui se passe, qui est une occasion de chute, une occasion d'être offensé, je ne touche pas à ça. Ça, c'est une piège de l'ennemi, et je sais qui a mis cette piège-là, et je refuse de faire part de cette offense. Amen. En fait, tu peux dire, juste avant numéro 2, c'est marqué dans vos notes, faites tout votre possible pour éviter les offenses. La meilleure façon de vaincre les offenses, c'est d'éviter les offenses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-toi avant que la querelle ne se déchaîne. Il vaut mieux prévenir que de guérir. N'est-ce pas vrai? Donc, n'importe quand vous avez l'occasion d'être offensé, reconnaissez, non, je sais exactement qu'est-ce que c'est, je veux être sage, je ne veux pas être un singe, je ne veux pas toucher à cette offense. Et ça nous amène aux deuxième choses, refuser de prendre, on pourrait dire, l'appât ou de prendre l'offense. Même si, parce qu'on peut faire notre possible pour éviter les pièges, mais si, au moment donné, on est en chemin et on se trouve devant une cage avec un bâton, avec quelque chose de bien, une offense. Des fois, parce que Jésus a dit, les offenses vont arriver, les occasions de chute vont venir. On ne peut pas croire qu'on n'aura jamais plus une occasion d'être offensé. On a une occasion d'être offensé plusieurs fois par jour. Moi, j'ai découvert, et vous? Mais on peut éviter autant que possible les pièges, mais si on se trouve droit devant une piège, on peut quand même refuser de prendre la porte. On n'est pas obligé, même si quelqu'un nous blaste. Même si quelqu'un nous critique, même si quelqu'un nous fait tort, même si quelqu'un nous fait mal, peu importe qu'est-ce qu'ils font, même si je suis tenté de dire « Ah! » et de prendre l'offense, je peux dire « Non, je prends l'offense. Je touche pas à ça. » Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas prendre ces offenses? Lisons ce verset en 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. Ce verset est si puissant. Je veux que vous lisiez ce verset comme si c'est la première fois que vous avez lu la Bible. Il y a de la révélation dans ce verset qui va vous aider à vaincre les offenses et à vivre dans la liberté du pardon. Ce verset m'a aidé tellement, tellement, tellement. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 2, verset 24, « Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. » Déjà, c'est bon, n'est-ce pas? On ne doit pas avoir des querelles. Est-ce que vous croyez que c'est la Bible? C'est inspiré de Dieu? Un serviteur de Dieu? On pourrait même dire, je pense, un enfant de Dieu, surtout ceux qui sont dans le ministère, mais n'importe quel enfant de Dieu ne devrait pas avoir des querelles. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. La Bible dit qu'on devrait être capable de supporter les critiques. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui crie Alléluia ce matin? Peut-être si je prêcherais une autre chose comme Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, là vous direz Wouh! Mais là, la Bible dit, ou si je dirais Je prie tout par celui qui me fortifie, Wouh! Alléluia! Mais là, la Bible dit Vous devrez être capable de supporter les critiques. Wouh! Alléluia! On va pratiquer. Vous devrez être capable de supporter les critiques. Wow! Ça, c'est fort, hein? Capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Comment est-ce qu'on est supposé de répondre à ceux qui nous contredisent? Avec douceur. Une parole douce, calme la fureur. Amen. Hallelujah. Dieu, regarde bien, c'est bon. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens. C'est ça le problème, vois-tu? Une personne qui te critique, une personne qui te contredit, une personne qui t'attaque, une personne qui t'offense, c'est une personne qui a perdu son bon sens. Parce que laisse-moi vous dire, on n'attaque pas un enfant de Dieu à moins d'avoir perdu notre bon sens. Amen? On ne touche pas à la propriété de Dieu. On ne touche pas à celui qui est en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. On ne critique pas, on ne parle pas dans le dos d'une personne qui est en alliance avec le Dieu Puissant à moins d'avoir perdu notre bon sens. Est-ce que j'ai raison? Donc, c'est pourquoi la Bible dit que si tu te trouves dans une situation où quelqu'un est en train de te critiquer, te blaster ou te faire tort ou quoi que ce soit, tu es supposé de répondre avec douceur, de supporter la critique. Et Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Et c'est quoi que Jésus a dit concernant la vérité? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Est-ce que vous avez entendu la parole de Dieu ce matin? Quelqu'un qui critique, quelqu'un qui blaste un autre, quelqu'un qui donne les offenses ou quelqu'un qui prend les offenses
a été attrapé déjà par le diable et il est soumis au diable pour faire la volonté du diable. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Amen? Mais, voici le problème. Et c'est qu'est-ce que j'ai écrit dans vos notes? Ne laissez pas le problème d'un autre devienne le vôtre. Je vais le répéter. Ne laissez pas le problème d'un autre devienne le vôtre. Oh, mais, vois-tu, j'espère que mon problème de français ne va pas devenir votre problème de français. Ne laissez pas le problème d'un autre devenir, ah oui, ça sent mieux, hein, devenir le vôtre. Parce que remarquez bien, si quelqu'un est en train de te critiquer, si quelqu'un te fait tort, si quelqu'un fait les choses qui ne sont vraiment pas correctes envers toi, de toute évidence, selon la Bible, cette personne est déjà dans une piège du diable, il est prisonnier. Cette personne est soumise à Satan pour faire la volonté de Satan. Et dès qu'on accepte l'offense, dès qu'on prend la part, dès qu'on se laisse offenser, on devient captif avec lui. Et maintenant, son problème, le gars ou la femme qui a un méchant problème, et il ne m'a pas traité comme faux, il a parlé dans mon dos, il a perdu son bon sens. Dès que je prends l'offense, je viens de perdre mon bon sens aussi. Est-ce que vous êtes là? Ne laissez pas le problème d'un autre devenir votre problème. Amen. Regardons une autre petite clé là-dessus. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut le faire? Soyez émus de compassion pour l'offenseur. Celui qui vous a offensé, au lieu d'être fâché, on devrait reconnaître, ah, wow! Vois-tu, ce monsieur, il est vraiment piégé. Il est prisonnier de Satan. Il est soumis à Satan pour faire la volonté de Satan. Et au lieu d'être fâché avec lui, on devrait avoir la compassion et dire, oh, Seigneur, s'il te plaît, ouvre ses yeux. Aide cette personne à s'en sortir. Oh Seigneur, ouvre les yeux de son cœur pour qu'il puisse revenir à son bon sens, pour qu'il puisse connaître la vérité qui va l'affranchir, qui va libérer cette personne. Oh Seigneur, je prie vraiment. C'est pourquoi Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Bénir ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui font du mal à vous. Amen. Parce qu'on est ému de compassion. Pauvre monsieur, pauvre madame. J'ai déjà raconté l'histoire. C'est la meilleure que j'ai de ma vie personnelle. J'avais un voisin à un moment donné aux États-Unis qui n'aimait pas mon chien. Mon chien jappait trop. Et souvent, il sortait de sa maison et il lançait les bûches, il lançait les choses à mon chien. Il n'aimait pas du tout mon chien. Et quand il me voyait, il criait dans ma face. Et un jour, il est même entré dans la maison sans permission. Il ouvre la porte, il entre dans la maison et commence à crier après nous. Et vois-tu, la chair veut faire quelque chose. Mais grâce au Seigneur, avec la sagesse de Dieu, lente à la colère, moi, j'étais capable, avec son aide, de dire, « Hey, je suis vraiment désolé, Bob. Vraiment, je m'excuse. On va faire notre possible pour mettre le chien. Je comprends, ça doit être dérangeant. Toi, tu as besoin de dormir le jour parce que tu travailles la nuit. Je comprends. » Mais là, lui, il voulait vraiment battre. Il ne voulait pas réconcilier quoi que ce soit. Lui, il voulait que je sois fâché aussi. Mais, vois-tu, c'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on répondit avec une parole douce, c'était comme, « Oh! » Il tourne de bord et il va dans la maison. Et plus tard, je l'ai rencontré, j'ai partagé l'évangile avec lui, et il commençait à pleurer. Il disait, je sais que c'est pas correct que j'ai fait. À chaque fois que je criais après toi, je me suis rentré chez moi et je restais dans mon lit et je pleurais parce que je regrettais qu'est-ce que j'ai dit. Wow! Vois-tu? Le Seigneur veut qu'on refuse de prendre la part. On a besoin d'avoir compassion. Et c'est ça que j'ai eu. C'est comme, Seigneur, ce gars doit être misérable. Une personne qui est prête à crier comme ça, une personne qui est prête à vraiment descendre les personnes de même, doit être une personne souffrante. Amen. Ceux qui souffrent vont faire souffrir les autres. Amen. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous fait souffrir, je me suis corrigé, hein? Ouh! Hey, on va de gloire en gloire. La prochaine fois que quelqu'un vous fait souffrir, au lieu d'être fâché, au lieu de se venger, au lieu de se retirer, vous allez avoir la compassion pour la personne. Il doit être une personne qui souffre énormément. Oh Seigneur, oh accorde-lui, Seigneur, un esprit de révélation pour qu'il puisse revenir à son bon sens et s'échapper du piège du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut refuser de prendre la part? Ne laissez pas le problème d'un autre devenir le vôtre. Soyez émus de compassion pour l'offenseur et n'oubliez pas que vous êtes déjà mort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Paul a dit en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Une chose que j'ai remarquée, j'ai fait plusieurs funérailles en tant que pasteur et j'ai jamais vu une personne dans le cercueil qui a été offensée. Combien de vous, est-ce que c'est dur d'offenser quelqu'un qui est mort? Vous êtes d'accord? Et on devrait avoir cette attitude, tu sais, quelqu'un se dit quelque chose qui n'est pas correct, quelqu'un se fait tort, je ne prends pas ça personnellement. Amen. Je suis mort. Je suis crucifié, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas me faire mal parce que je suis mort. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, on va juste finir ici. Numéro 3. Soyez prompt à lâcher prise. Si jamais ça arrive que vous avez pris la part de Satan, que vous avez pris l'offense, et puis dès que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, lâchez prise tout de suite. Amen. C'est comme, oh non, je me suis trompé, j'ai pris une offense. Wow, je lâche prise parce que je vois le diable venir avec ses amis et tout le bâton. Lâchez prise avant que le diable arrive du jungle, avec ses bâtons pour vous taper sur la tête. Amen. Ne soyez pas un singe, soyez sage. Lâchez prise, pardonnez, oubliez. Amen. On n'a pas le temps de tout lire, mais vous pouvez lire Matthieu 18, 21, 35 vous-même à la maison. Mais il faut être prompt à pardonner. Hallelujah. Marc 11, 25 dit, « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Vous ne devrez même pas prier avant d'avoir réglé vos offenses. Amen. Et c'est la même chose. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça va dans les deux sens. Si ton frère a quelque chose contre toi ou si toi tu as quelque chose contre ton frère, règle dans le plus bref délai, lâche prise du bâton avant que l'ennemi arrive avec ses bâtons pour vous taper sur la tête. Amen. Comment est-ce qu'on va le faire? Régler le problème dans le plus bref délai. En fait, la Bible dit, ne laissez pas coucher le soleil sur votre colère. Acceptez le prix que Jésus a déjà payé. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Laisse-moi vous dire une chose. Nous avons tous été les offenseurs. Nous avons tous offensé Dieu. Est-ce que j'ai raison? Nos péchés ont été offensifs à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils. Jésus a payé le prix, il nous a pardonné, il nous a réconciliés avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la parole de la réconciliation. Quelle injustice de recevoir la réconciliation avec Dieu, de recevoir le pardon pour nos péchés et de ne pas offrir le même pardon à quelqu'un d'autre. Quelle injustice. Oui, mais il m'a fait mal et je veux qu'il souffre. Quelqu'un a déjà souffert. Et c'est Jésus. Amen. Il y avait une histoire dans la Deuxième Guerre mondiale des soldats de l'Écosse qui étaient prisonniers aux Japonais et ils ont été traités durement, cruellement par les Japonais. Et un jour, il y avait un officier japonais qui est arrivé et devant ses hommes, il manquait une pelle. Où est la pelle? On ne sait pas. Où est la pelle? Produit la pelle ou sinon, il sort son pistolet, je vais tuer chacun de vous. Il était sérieux. Où est la pelle? Personne ne savait. Mais à un moment donné, quelqu'un a dit, c'est moi qui ai perdu la pelle. Donc le gars a pris une pelle, il l'a battu jusqu'à la mort. Mais après, ils ont trouvé la pelle. Il n'a pas vraiment perdu sa pelle. Par amour, il s'est présenté en sacrifice. Il a dit, si je ne me présente pas comme sacrifice, tous les autres vont mourir. Mais vois-tu, à la fin de la guerre, tous les alliés sont venus pour les libérer. Et là, ils avaient l'occasion, parce que l'armée des alliés est arrivée, ils avaient le pouvoir de se venger contre les Japonais. Ils avaient sûrement avaient des pensées de le faire. Ils nous ont fait souffrir cruellement, maintenant c'est à notre tour, mais ils ont dit non, on a déjà vu le sang d'un de nos camarades couler, et ça c'est suffisant, on a vu assez de sang couler, ça va faire. Et au lieu de se venger, ils se sont réconciliés avec les Japonais. Amen. Et on devrait dire la même chose. Quelqu'un t'a fait tort, le sang a déjà coulé, c'est le sang de Jésus, une personne a déjà souffert, ça va faire. Amen. Pas besoin de faire souffrir un autre. Moi, je suis content que je n'ai pas besoin de souffrir pour mes péchés. Pourquoi est-ce que je voudrais faire souffrir quelqu'un d'autre pour leur péché? Car Jésus a souffert pour tout le monde. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'espère, alléluia, que nous avons saisi l'importance de vaincre les offenses avant que les offenses nous vainquent. Acceptez le prix que Jésus a payé et finalement, faites confiance à Dieu. Sachez que Dieu est fidèle, il est un juge fidèle. Comme Joseph, Joseph a été maltraité, Joseph a été trahi par ses propres frères, mais Joseph n'est pas devenu amer, il est devenu mieux. Amen. Au lieu d'être amer contre ses frères, il a dit non, le Seigneur a pris toutes les mauvaises choses que tu as fait à moi, il a changé ça pour sa gloire, il est devenu mieux au lieu de devenir amer. Amen. Et c'est la même chose pour vous et pour moi aujourd'hui. On va se lever debout, on va prier aujourd'hui. Alléluia. Merci, Père Céleste. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons un comme il est un. Il veut que nous soyons unis en esprit, dans nos foyers, dans nos mariages, avec nos enfants, dans notre église. Il veut un esprit d'unité. Le diable, il veut nous séparer, nous déchirer. Et il va souvent mettre les pièges, les offenses devant nous, afin de nous séparer. Mais nous allons reconnaître les pièges de l'ennemi. Nous allons refuser de prendre l'appât. Et nous allons lâcher prise rapidement si jamais on se trouve poigné avec une offense. On va pardonner comme Christ nous a pardonné. Et avec tous les yeux fermés, j'aimerais vous inviter ce matin. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais reçu le pardon de vos péchés, sachez que le sang d'un homme a déjà coulé, c'est le sang de Jésus, le prix a déjà été payé. Vous n'avez pas besoin de payer le prix pour vos péchés, vous ne pouvez pas. Jésus l'a fait. Mais j'aimerais donner cette invitation, on va tous prier ensemble dans un instant, mais si vous êtes ici et vous direz, « Pasteur, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est ressuscité des morts, mais je ne suis pas sûr et certain d'avoir la vie éternelle. Je ne sais pas à 100% que mes péchés sont pardonnés. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vos péchés sont pardonnés. Jésus a déjà payé le prix. Mais maintenant, il faut confesser avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, il est ton maître. Tu vas le suivre n'importe où qu'il va. Ou n'importe où qu'il veut que tu vas. Tu vas confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu vas croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Donc avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux que tu pries avec moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu lèves la main. Tu veux recevoir le pardon. Sinon, peut-être tout le monde ici a déjà fait. Ce n'est pas de la foi. Mais je pense que sûrement il y a des personnes ici que vous avez pris des offenses. Vous êtes piégés. Même ce matin, vous avez perdu votre bon sens parce que vous êtes fâché, vous êtes blessé, vous êtes offensé contre les gens. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que vous relâchiez, que vous lâchiez prise de ces offenses. Et juste avec tous les yeux fermés, si c'est le cas, j'aimerais que vous prendrez vos mains, mettez vos mains ensemble et imaginez que la personne qui vous a offensé est là devant vous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remettre cette personne entre les mains de Dieu. nous allons reconnaître et accepter le sacrifice de Jésus en disant, « Jésus, tu as déjà versé ton sang pour lui. Je n'ai pas besoin de le faire souffrir. Et j'accepte la souffrance que tu as reçue en ton corps. J'accepte cette souffrance. Et Seigneur, aide-moi. Juste là dans votre cœur, priez pour la personne. Priez, Seigneur, je prie pour les personnes qui nous ont offensés. Je prie que tu ouvres les yeux de leur cœur. Je prie, Seigneur Jésus, qu'ils puissent revenir à leur bon sens, qu'ils puissent connaître la vérité, être affranchis et libérés du piège du diable qui les a happés pour les soumettre à faire sa volonté. Père, je prie avec compassion pour ces personnes qui nous ont offensés au nom de Jésus. Et maintenant, on va tous juste lever nos mains vers le Seigneur. On va comme remettre ces personnes. Lâchez prise. Lâchez prise de ces offenses de cette personne. Dans votre cœur, Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Oh, la dette est payée au complet. Je ne vais pas exiger autre chose, Seigneur. Je ne peux pas parce que Jésus a déjà payé la dette. La dette est claire. Éclairée maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, on va juste chanter un chant pour terminer ce matin.